Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc aujourd'hui, je voudrais encore partager avec vous quelque chose des héros de la foi. Je voudrais que chacun d'entre nous ayons cette ambition de faire partie de cette liste qui ne s'arrête pas, des héros de la foi. Nous avons dans la Bible, dans Hébreux 11, un certain nombre de références à des personnages de l'Ancien Testament qui ont vécu des choses en leur temps avec Dieu. Et donc nous avons depuis plusieurs fois maintenant déjà étudier certains aspects de la vie, parce que tellement à dire sur chacun d'entre eux, mais certains aspects, juste nous avons un peu survolé quelques personnages, et donc à un moment donné, dans Hébreux 11, 32, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Et que dirais-je encore pour parler, le temps me manquerait pour parler », et il commence encore une énumérée de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des autres. Et donc toute la liste de tout ce que ces personnes ont accompli, ou plutôt de ce que Dieu a accompli au travers d'eux. Et donc mon titre pour aujourd'hui, c'est « Que dirais-je encore de Barak, de Samson et de Jephté ?» Trois personnages que je voudrais qu'on voit, juste certains points, parce que là encore, on ne va pas voir tous les points, vous avez votre Bible, vous pouvez relire tous les détails, mais je voudrais juste souligner quelques points. Dans le livre des Juges, un des leitmotifs, un verset qui revient toujours à nouveau, c'est Juges 17:6, quand il est dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Dans l'Église actuelle, si Jésus n'est pas réellement le roi des rois et le seigneur des seigneurs sur l'Église, mais que c'est des pensées, des avis des hommes, c'est des gens qui y dirigent, c'est des traditions, c'est des structures, si tout cela contrôle, alors c'est « chacun fait ce qui lui semble bon ». Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de dénominations et d'éclatements dans le corps de Christ. Parce que chacun fait ce qui lui semble bon. Et Jésus, quand Jésus est rétabli, roi des rois et seigneur des seigneurs, alors les choses commencent à changer. Et de la même façon, dans votre vie, vous pouvez dire, je suis chrétien, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, mais s'il n'est pas réellement le roi de votre vie, alors vous faites ce qui vous semble bon. Pourquoi c'est pas forcément la meilleure chose de faire ce qui nous semble bon, parce que dans la volonté de Dieu, on reconnaît ce qui est bon pour nous. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas pour vous priver, ce n'est pas pour vous embêter qu'il veut vous faire connaître sa volonté, c'est parce que c'est le meilleur chemin. D'accord ? Donc soyez attentifs à la parole de Dieu, soyez attentifs de recevoir la pensée de Dieu pour vous aujourd'hui. Quelle est la pensée de Dieu au travers du livre des juges? Donc on voit qu'il y a une espèce de grand fouillis, chacun fait ce qu'il pense. Il y a un grand mélange aussi. L'ordre de Dieu était clair. Dans Juges 2, nous lisons la chose suivante, au verset 1 à 3. « Par un envoyé de l'Éternel, qui a été envoyé par Dieu pour parler au peuple. Il est allé de Gilgal à Bochim, il nous est dit, et voici ce qu'il a dit. « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner, et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Alléluia, on dit ça ? Jamais, Dieu a dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Il a dit au peuple d'Israël, et maintenant il a dit à chacun d'entre nous, « Jamais je vais rompre mon alliance par le sang de Jésus que j'ai fait avec toi. Mais vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. » Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi vous faites ça? Posez-vous la question des fois. Pourquoi je fais des choses aussi stupides? J'ai alors dit, je ne les chasserai point devant vous. Ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront en piège. Des fois les gens disent, Dieu, pourquoi tu as permis ça? C'est toi qui as laissé les choses en place, les choses de l'ennemi. Et tu es étonné de ce qui se passe. Dieu avait dit, certaines choses seront des pièges pour vous. Et le peuple de Dieu devait détruire ces choses et les enlever. Et lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Il y a un temps pour pleurer, mais il ne faut pas que ce soit juste des pleurnicheries. Il faut que ce soit des pleurs de repentance, de dire, je réalise, là j'étais vraiment à côté. Il faut que je change certaines façons de faire pour que à nouveau je puisse profiter pleinement de la bénédiction de Dieu. Donc certains, et on le voit tout au début du livre de Juges, quand ils commencent peu à peu à rentrer dans Canaan, partout, dès qu'il y avait une opposition, au lieu de confronter la situation, ils laissaient en place tel groupe de personnes, telle ville, telle population, etc. Donc, ils étaient dans un pays promis, mais ils avaient laissé tellement de choses en place que ces choses, exactement comme Dieu l'avait dit pour les avertir, pas pour les maudire, il avait dit que ces choses deviendront des pièges pour vous. Donc, chasser l'ennemi de notre vie un peu seulement ne suffit pas. Et donc, on voit aussi dans le livre des Juges que la moralité, elle était à peu près. On obéissait à Dieu, mais seulement à peu près, souvent. Donc, et il y a quand même eu des moments où le peuple était alors triste de sa situation. Il criait à Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé ? Bien Dieu, qui est fidèle à son alliance, quand on l'invoque, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a envoyé des libérateurs. Il a envoyé des personnes qu'on a appelées des juges. Et donc, il y a la description d'un certain nombre de juges. D'ailleurs, nous avons déjà vu l'histoire de Gédéon au préalable. Mais il y en a un que nous voulons voir ensemble. Et dans la liste des héros de la foi, on nous parle de Barak. Alors, qui était ce Barak? Nous le trouvons son histoire dans Juges 4 et 5. Et en réalité, Hébreux 11 nous parle de Barak, mais nous on se rend compte que le vrai héros de l'histoire, c'était Déborah. C'était une femme prophétesse. Et nous allons voir que l'histoire de Barak, c'était pas l'histoire d'un vaillant héros militaire qui a lui remporté la victoire. Mais nous avons une des plus belles descriptions d'un combat spirituel. Ça vous dit quelque chose, combat spirituel? Éphésiens 6, 12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais un combat spirituel à mener. » Des choses qui vont pas dans notre vie, des fois, il faut pas essayer de trouver toujours des solutions dans notre cerveau, mais des fois dans notre cœur, de se rendre compte « Tiens, il y a des choses que je dois mettre en ordre, des choses que je ne dois pas tolérer de la part de l'ennemi, et pour que ça s'arrange, c'est un combat spirituel qu'il faut mener. » Donc, dans Juges 4, nous lisons au verset 3 qu'il y avait, Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatsor, et le chef de son armée était Sisera. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Lisez avec moi, 20 ans d'oppression du chef de l'armée de Jabin. Et donc, comment être libre après 20 ans? On peut aussi se poser des questions. Il y a des gens qui essaient de se sortir d'une situation, ça fait 20 ans que ça dure. Et il nous est dit que cette oppression a duré longtemps. Et dans Juges 5, au verset 7, dans le cantique de Déborah qu'elle chante à la fin quand la victoire est totale, mais elle dit que la situation telle qu'elle était au début. Elle dit au verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Il n'y avait plus de force en Israël. Et les chefs, c'est ceux qui doivent montrer l'exemple, qui doivent entraîner les autres. Si eux sont sans force, alors qui va aider? Donc ils sont censés être les plus costauds. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand les chefs sont sans force, ben certains ils disent, ben, alors on peut rien faire, ils sont déprimés et ils vont rien du tout. Mais Déborah dit, quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire une mère? Ben, une mère ou un père, ça veut dire c'est des gens qui prennent leurs responsabilités. Quand on est seul, qu'on n'a pas de conjoint, ni de parents à s'occuper, ni d'enfants, on n'a pas vraiment de responsabilité, on a juste notre vie à mener. Mais par contre, quand on dit « je me lève comme une mère en Israël », ça veut dire « je prends conscience de mes responsabilités, je suis quelqu'un qui doit m'engager, je me lève, il n'y a pas de chef, tant pis, c'est moi qui y vais ». Donc c'est aussi l'idée de chacun d'entre nous, pas se plaindre de dire « oh là là, mais personne ne fait rien, qu'est-ce qui se passe, rien qui bouge ». À un moment donné, on se lève. Donc c'est Déborah, et c'est cette attitude qui plaît à Dieu. C'est pour ça qu'on a aussi des situations, on va le voir avec Samuel, la parole de Dieu n'était pas fréquente, voilà. On ne dit pas qu'il y avait des prophètes à ce moment-là, mais il y avait une dame qui était prophétesse. Et donc, elle siégeait et elle était juge en Israël. Juge 4-4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc je vous rappelle que la prophétesse, ce n'est pas la femme du prophète. C'est elle qui avait le ministère, d'accord? Chacun son ministère, chacun son appel. Prophétesse, ça veut dire elle parlait de la part de Dieu. Et quand il y a une situation d'oppression, de crise, une parole de Dieu vient. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les délivra de leurs angoisses. Retenez bien, psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Vous avez un souci? Cherchez auprès de Dieu, il va vous envoyer une parole. Donc, elle dit, voilà, eh bien, Barak, c'est toi qui as été appelé. Elle l'a envoyé appeler Barak, verset 6. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Elle lui dit, c'est toi qui as été appelé. C'est toi qui dois maintenant rassembler l'armée. Et Barak accepte la mission. Donc, il sonne de la trompette. On avait déjà parlé de la trompette, ce que ça représente. La vigilance, être prêt à entendre. Ça appelle au combat. Qui se préparera au combat? La trompette doit donner un son précis et pas confus. Donc, il accepte la mission, mais il nous est dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il demande à Déborah de l'accompagner. Pour dire, on a besoin de soutien? Ben oui, on a besoin de soutien. On a besoin plus qu'on ne pense de soutien. Et Déborah est maintenant la représentation de la personne qui est appelée par Dieu, qui a l'onction. C'est on recherche auprès des personnes qui ont l'onction de Dieu. Ils cherchent l'appui de Déborah. L'homme de Dieu est une femme. Souvent on dit qu'il faut rechercher auprès de l'homme de Dieu. Ben là, c'est une femme, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Mais je voudrais souligner juste cet aspect, c'est que Barak aurait pu dire, voilà, c'est moi le chef de l'armée maintenant, on y va les gars. Mais non, il dit, non, on sait qu'on a besoin. Combien de fois dans la Bible on voit que Dieu aime triompher avec une minorité? Un petit nombre. Souvent un petit nombre. On l'a vu avec Gédéon encore, il dit, il y en a trop. Dieu veut montrer qui il est. Et nous avons, j'ai dit que c'était un combat spirituel. Barak, il va avec une armée, mais en même temps, il sait que Déborah a besoin d'être là. C'est son soutien. Il voit là la présence de Dieu dans sa vie. Il voit qu'il y a de la force en elle. Et au verset 20, dans Juges 5, au verset 20, il y a un verset extraordinaire pour chacun d'entre nous de réaliser. Des cieux ont combattu. Et de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles sont prises souvent au sens figuré pour représenter les armées célestes, les êtres angéliques. Il nous est dit d'ailleurs que lors de la rébellion de Satan, un tiers des étoiles le suivit. Donc quand il y a eu cette rébellion dans le ciel, un tiers des étoiles, ça ne parle pas du tout du cosmos, c'est évident, et donc... On suivi dans la rébellion. Mais ici, on a autre chose. Des cieux, il y a eu une bataille. Et cette bataille, il nous est dit que lorsque Josué a combattu Amalek avec les troupes d'Israël, il nous est dit quand Moïse avait les bras levés et Aaron et Hur lui ont tenu les bras, tant qu'il intercédait, qu'il priait, l'armée gagnait. Quand il était fatigué et que les bras se baissaient, l'armée était de nouveau en situation de défaite. C'est pour ça qu'ils lui ont tenu les mains élevées pour qu'il continue de prier. C'est symbolique, mais c'est tellement fort. Et ici, c'est la même chose. Pendant que Barak mène la bataille, Déborah est là, présente en tant que femme de Dieu, en tant que prophétesse, et lui, il sait qu'il peut compter sur cet appui. Et les hommes de l'armée savent aussi, la femme de Dieu, la prophétesse, elle est avec nous. Donc, quelque part, Dieu est avec nous. C'est ça, au final. Mais les gens ont besoin des fois de focaliser sur quelque chose. Si on leur dit Dieu avec, oh oui, mais si seulement je pouvais le voir, etc. Mais de temps en temps, n'est-ce pas vrai que chacun d'entre nous représentons un encouragement pour quelqu'un d'autre, au lieu de savoir, ah, quelqu'un s'est soucié de moi assez pour se tenir auprès de moi. Mais on a encore du soutien plus grand parce qu'il nous est dit ici, des cieux l'ont combattu. Et Déborah dit dans son cantique au verset Juge 5 et au verset 13, il nous est dit un reste du peuple triompha des puissants. Ça veut dire que Israël n'avait pas réussi à ramasser un grand nombre de personnes et à envoyer une armée considérable, mais un reste du peuple. Seulement une partie du peuple est allée. Mais pourtant ça a suffi pour triompher. Et Déborah dit, l'Éternel me, souligné, me donna la victoire sur les héros. Et cette fois-ci, les héros, ils étaient dans l'autre camp. Rappelez-vous, les 900 chars de fer, ils étaient équipés avec des guerriers, c'était phénoménal, mais Déborah avait remporté la victoire. Elle l'a dit, elle l'a répété, c'est comme ça qu'elle voit les choses. L'Éternel les a livrés entre nos mains. Et l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Donc même s'il y en a qui sont très forts en face, l'Éternel lui donne la victoire. J'ai dit que tout le monde n'était pas venu. D'ailleurs, dans Juges 5, au verset 23, il nous est dit « Maudissez Méroz ». Méroz, c'était un endroit. Dit l'ange de l'Éternel « Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel ». N'est-ce pas étrange, ça ? Ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Dieu a-t-il besoin de secours ? Lui-même, non. Mais dans les choses qu'il veut accomplir, nous qui sommes là pour exécuter ses ordres et faire sa volonté, nous avons des fois besoin de secours. Et ici, il nous est dit, ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Le reste du peuple, ces hommes vaillants qui ont osé aller à la guerre, ils auraient quand même eu besoin de secours peut-être, ou d'avoir les mains renforcées. Mais certains ne sont pas venus. Certains n'ont pas daigné se déplacer. Et il nous est dit une liste de certains qui sont venus et d'autres qui ne sont pas venus. Donc, verset 14, d'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi la troupe. De Makir vinrent des chefs. Vous voyez, toute cette énumération est intéressante. Ça veut dire que vous et moi, on n'est pas des anonymes. Dieu voit les choses. Il dit, tiens, un tel est venu. Un tel a fait ci. Un tel a fait ça. Ça compte. Vous ne pensez pas que ça ne compte pas. De Zabulon sont venus des commandants. Les princes d'Issacar furent avec Déborah, et Issacar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Mais, près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. C'est-à-dire, ah ouais, on va y aller, on est en train de discuter, on est plein de bonnes intentions. Verset 16, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben ?» Assis au milieu des étables à écouter le bêlement. D'accord ? Bon, ça c'est important, il faut que je reste assis dans l'étable, écouter le bêlement. Quand il y a la trompette de Dieu qui annonce le combat et qu'on appelle des gens à se lever. « Grandes furent les délibérations du cœur. » Vous voyez une différence entre résolution du cœur et délibération. Des fois, on est résolu, on dit « on va y aller ». Après, on réfléchit, est-ce qu'il faut vraiment y aller ? Est-ce qu'on ne prend pas des risques ? Est-ce que ceci ? Et après, il y a grandes furent les délibérations. On fait tellement de délibérations qu'à la fin, il n'y a pas d'action. N'est-ce pas aussi l'image souvent de notre diplomatie mondiale à l'ONU ? Vous savez, ils font des délibérations. Il y a une situation grave ici, là, des gens sont massacrés par milliers, et on fera une résolution. Et on leur dit, ce n'est pas bien ce que vous faites, vous ne devriez pas laisser massacrer votre population comme ça. Et on délibère, on parle encore, on parle, et rien ne se fait. Et donc là, il nous est dit, quelles sont les personnes qui ont répondu et quels sont ceux qui ne sont pas allés. Tout est noté. Galaad, au-delà du Jourdain, il n'a pas quitté sa demeure. Dan s'est tenu sur les rivages. Vous pourriez voir où étaient les tribus d'Israël, vous comprendriez, le long de la mer. Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronte à la mort. Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Des rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan. Donc, on dit tout ce qui se passe, mais le principe c'est que tous n'ont pas répondu. Et on pose la question, pourquoi ? Des bavardages, des délibérations, mais pas d'action. À un moment, il faut y aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant le combat spirituel. On a un combat spirituel à mener. Et donc, c'est vraiment formidable. Pour moi, c'est toujours encourageant de voir qu'il y a une femme de Dieu qui s'est levée, qui a pris sa place, et quelqu'un qui a reconnu l'onction qui était sur sa vie. Et on parle d'onction, donc on passe à un autre personnage, Samson. J'aimerais dire quelques mots sur Samson encore. Alors, pour Samson, j'irai un petit sous-titre. L'onction seule ne suffit pas, mais aussi une vie consacrée. Parce que des fois, on dit l'onction, il faut rechercher l'onction, la puissance de Dieu. Puissance de Dieu, encore la puissance de Dieu. Mais Samson a eu la puissance de Dieu. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas été. Et sa vie s'est terminé tragiquement. Premièrement, j'aimerais dire concernant Samson, ça commence au chapitre 13 de Juges. Encore un triste, quand un juge arrêtait son temps, alors Israël retombait dans des choses qui ne déplaisaient à Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 ans. Avant, on parlait de 20 ans d'oppression. Maintenant, c'était reparti pour 40 ans d'oppression, cette fois-ci des Philistins. Et donc, il nous est dit, chaque fois qu'il y avait ce problème, eh bien, de nouveau, il y avait des prières qui montaient vers Dieu pour la délivrance. Cette fois-ci, la délivrance est venue au travers d'un homme. Il y a eu une révélation par l'ange de l'Éternel à ses parents. Et il nous a dit, tu es stérile, mais tu vas enfanter un fils. Donc, chaque personne a un appel sur sa vie. Et on voit dès les premiers temps de Samson qu'il y a une responsabilité de la part des parents. Les parents doivent créer un environnement favorable pour l'enfant. Et des parents comme ceux de Samson, ils avaient reçu des instructions précises. Chacun de nous pour nous préparer pour ça. Aussi, si nous sommes des parents spirituels, on peut créer une atmosphère de foi, une atmosphère de paix où les enfants peuvent grandir en vue d'arriver à leur appel qui est sur leur vie. Par exemple, il nous était dit ce que la maman devait faire. Elle ne devait pas boire d'alcool, elle devait pas, et non seulement elle, mais ensuite aussi l'enfant, ne rien toucher de ce qui était un produit de la vigne. Ni vin, ni liqueur forte, ni manger rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Il faut consacrer les enfants à Dieu. Et donc, la consécration des parents va conduire à la consécration des enfants. Comment imaginer que des parents ne vivent pas de façon consacrée et que tout à coup on ait ce miracle des enfants qui soient consacrés? Quel est le drame dans beaucoup d'églises aussi? On dit, ah, les jeunes, ils suivent pas, etc. Ils sont en révolte parce qu'ils voient tellement de choses différentes entre ce qui est dit, ce qui est prêché, ce qui est vécu, etc. Donc, ils peuvent pas accepter et c'est un handicap pour eux. Au verset 8, nous voyons un point intéressant. Le père prie spécialement pour recevoir des instructions. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour l'enfant? Il demande à Dieu. Si vous ne savez pas quoi faire pour un de vos enfants, demandez, dire qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je agir? Et donc l'enfant grandit et l'enfant commence à rentrer dans les choses que Dieu avait appelées sur sa vie. Au verset 25, il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel commençait à agiter Samson, commençait à agir en lui et à le faire bouger. Donc quelque chose se produit en Samson. Cette onction se manifeste, cet appel de Dieu se concrétise. Mais nous voyons au chapitre 14 quelque chose qui peut nous étonner. Il nous est dit que Samson, il descend à Timna, il voit une des filles des Philistins. Donc il choisit une femme parmi les ennemis d'Israël, ce qui était vraiment constamment interdit de se mélanger, de faire des alliances avec des étrangers. Et là, en plus, c'est vraiment les ennemis. Et il y a une incompréhension de ses parents. Il dit, mais pourquoi tu cherches une fille parmi nos ennemis? Donc, cette incompréhension, lui, il dit, mais parce qu'elle me plaît. Ben oui, c'est une bonne raison de choisir un conjoint parce qu'il vous plaît. Mais quelque part, on pourrait dire qu'il cherche ce qui lui plaît. D'accord? Plus que la volonté de Dieu. Il se trouve que il y a quand même un dessein de Dieu au travers de cette situation, même si ça nous paraît un peu bizarre, on ne comprend pas toujours bien. Son père et sa mère aussi n'ont pas bien compris quel est l'appel de leur fils. Vous voyez, eux, ils étaient plutôt dans une attitude de choses traditionnelles. Ben, non, tu vas faire comme il est d'usage. Tu vas chercher une fille parmi, des fois ça faisait même parmi la parenté ou des choses comme ça. Et des choses traditionnelles, naturelles, comme il est d'usage. Et il nous est dit, il ne savait pas que cela venait de l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut être parent chrétien, on peut avoir consacré sa vie à Dieu, on peut avoir consacré son enfant, mais à un moment donné, ils ont manqué de discernement. Ils n'ont pas compris ce qui se passait et ils voulaient s'y opposer. Donc c'est important aussi qu'on le réalise. Et ensuite, il nous est dit à plusieurs moments que la force de Dieu se manifeste sur Samson. Donc on a déjà lu, Juges 13, 25, l'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter. Et en Juges 14, 6, il nous dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson a déchiré un lion, il nous est dit, comme on déchire un chevreau. Au verset 19, à nouveau, il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Au chapitre 15 et au verset 14, il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Pourquoi je lis toutes ces expressions? Pour que vous compreniez bien qu'il y avait cette manifestation de l'onction de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit sur sa vie. Régulièrement, Samson était au bénéfice d'une force, on pourrait dire, surnaturelle. Mais il y avait aussi un autre aspect de sa vie. Il y avait sa force, et on sait d'où elle vient, de sa consécration, de l'onction de Dieu, mais il y avait aussi sa faiblesse. Donc on a déjà interprété, c'est une interprétation un peu spirituelle, je le reconnais, mais au verset 3 du chapitre 14, qu'il cherchait ce qui lui plaît. Ça peut être une faiblesse. Je cherche pas la volonté de Dieu forcément, mais d'abord des choses du point de vue naturel, ce qui me plaît. Beaucoup de gens actuellement sont seulement dans ce qui me plaît. Chapitre 14, verset 19, nous voyons aussi qu'il était enflammé de colère. Alors certains veulent justifier les accès de colère en disant c'est une sainte colère, mais ça peut être tout simplement une façon dont il perd son sang-froid, il se contrôle plus, il se maîtrise plus. Or nous avons le fruit de l'esprit qui est, entre autres, la maîtrise de soi. Ensuite, au chapitre 16, l'histoire avec cette femme Delila qui l'a séduit. Il nous est dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Donc, bien sûr, on peut au bout d'un moment être usé, mais là, nous avons un autre aspect, une autre faiblesse, c'est l'impatience. Son âme s'est impatientée jusqu'à la mort. Et pour terminer, à un bout d'un moment, il y a quand même quelque chose de tragique qui se passe. C'est au verset 20. Il nous est dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et je voudrais juste encore attirer l'attention pour chacun d'entre nous sur cet aspect. Vous vous rendez compte où vous devez vous rendre quand vous marchez près de Dieu. Quand il est dans votre vie, quand il vous parle, quand vous recevez révélation sur révélation, quand il vous bénit et quand il y a des moments où il y a un creux, il y a peut-être un silence. Je dis pas qu'il faut tout de suite se mettre dans tous ces états à cause de ça. C'est peut-être on a besoin aussi des fois de temps d'écoute. Mais il se peut aussi que dans certaines circonstances, à ne pas avoir corrigé toutes nos faiblesses et toujours laissé dans l'état, on ne se rende plus compte au bout d'un moment quand l'Éternel s'est retiré. Quand on est un peu hors jeu par rapport à la volonté de Dieu et de ce qu'il voulait faire dans notre vie. L'Éternel s'était retiré de lui. Et il ne l'avait pas remarqué, jusqu'au moment où il a été vaincu. Mais, il y avait une bonne chose, Samson savait s'adresser à l'Éternel. Et dans certaines circonstances, nous voyons que c'était un homme de foi. Comme par exemple, à un moment dans le chapitre 15, verset 18, il nous est dit, « Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Il dit, si c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur une grande délivrance, maintenant, mourrai-je soif ? » Et verset 19, « Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léchi, et il sortit de l'eau sans son but, et son esprit se ranima, et il reprit vie. » Son esprit se ranima. Normalement, c'est quand je bois de l'eau, ça me fait du bien au niveau de mon corps. Mais ça veut dire qu'il y a une double chose qui s'est produite. Son esprit s'est ranimé aussi. Donc, venez toujours à cette source d'eau vive que Dieu tient en réserve pour chacun d'entre nous, pour que notre esprit se ranime. Si vous êtes un peu assoupi spirituellement, allez à lui pour que vous soyez de nouveau ranimé et que vous puissiez reprendre vie. Un peu comme ce qu'on voit dans l'Apocalypse, et Dieu passe pour être vivant, mais tu es mort. Donc, reprends vie. Le verset 18 est intéressant pour nous aussi, pressé par la soif. Je prie que vous soyez pressé par la soif, que cette soif de Dieu ne vous lâche pas. Et quand j'ai parlé de ces choses un peu négatives, de nos faiblesses, on en a tous, je voudrais terminer le dernier point par une réflexion sur Jephté. Jephté, il n'y a pas grand-chose de sa vie, c'est dans Juges. Et il nous est dit de Jephté, au verset 2, qu'il était le fils d'une prostituée. Son origine était un handicap pour sa vie. Jephté est quelqu'un qui a surmonté son handicap par la parole de Dieu. Donc, quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les situations difficiles, vous êtes capable aussi de pouvoir surmonter les handicaps par la parole de Dieu. Donc, son origine, en général, le fait de que tout le monde sache que quelqu'un est le fils ou la fille d'une prostituée, ça veut dire que c'est accompagné de mépris, de rejet, et des personnes qui sont regardées comme inférieures. Et donc, il nous est dit au verset suivant que Galaad, son père, il avait aussi une femme. Donc, c'était un enfant illégitime. Et les frères, les demi-frères de Jephté, ils l'ont chassé. Ils ont dit, tu n'hériteras pas avec la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Donc, il subit le rejet de ses frères et il nous est dit qu'il ne doit pas avoir part à l'héritage. Ça me fait penser à certains aussi. Certains ont s'accroché aux promesses de Dieu. Quand Dieu nous dit des choses, on dit « ça c'est pour moi, alléluia, Dieu me l'a promis ». Et il y a des personnes qui veulent vous en priver, dire « non, c'est pas pour toi, t'es pas assez bon, t'es pas assez ceci, pas assez cela ». Donc, là aussi, soyons encouragés par Jephté qui, on peut dire d'une certaine façon, n'a pas tenu compte de ça pour laisser sa vie être gâchée. Pendant un moment, effectivement, ça devait pas être drôle dans son enfance et par rapport à la réaction de ses demi-frères, mais à un moment donné, ce qui est en vous va ressortir, et on va se souvenir de vous, et on va vouloir votre aide. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, ils ont dit, mais Jephté, on a besoin de toi, sois notre chef. D'abord, on ne veut pas de lui, et après on se rappelle, ah mais Jephté pourrait nous aider. Quand on a besoin de nous, peut-être on va se rappeler que ces gens qu'on traitait peut-être d'extrémistes ou sont un peu bizarres, ces chrétiens-là. Mais à un moment donné, on peut se rappeler, ah mais oui, mais ils ont une alliance avec Dieu. Dieu répond à leurs prières. Ils sont peut-être capables de nous aider. Et ce sont les anciens de Galaad qui dirent à Jephté que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas tout ce que tu dis. Vous vous rendez compte la différence? Les anciens, c'est un peu le gouvernement local, quoi. Ils viennent maintenant, ils disent, nous, on est à ton ordre. Et le roi des fils d'Ammon, maintenant, vient attaquer cet endroit d'Israël. Et donc, il nous dit que nous voulons ce pays. Et Jephté, il répond, « Ce que ton Dieu, Kemosh, c'est le verset 24, te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas ? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas ?» Donc, il rappelle à l'autre ce qui est dans la parole de Dieu. Moi, ça me parle de quand Jésus a répondu, il est écrit. Quand on est dans certaines circonstances, il faut qu'on se rappelle de nouveau de ce que est dans la Bible. On peut dire que Jephté connaissait sa Bible, entre guillemets. Il savait que ça, c'était le pays promis. Et il savait que ses fils d'Ammon, ils n'avaient aucun droit sur ce pays. Ils ont fait semblant de dire, oui, mais voilà, vous nous avez pris ce pays, maintenant rendez-le. Il dit, non, ça n'est pas la réalité. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Nos ancêtres, ils ont contourné votre pays. Et ils n'ont jamais pénétré dans le royaume des fils d'Ammon et des Moabites, qui étaient les descendants de Lot, puisque Dieu leur avait donné des instructions. Ils sont allés dans le pays des Cananéens, qui était promis. D'accord? Donc, ils connaissaient bien son droit légal selon la parole de Dieu. Et il a dit, et maintenant, ce que l'Éternel, notre Dieu, met en notre possession devant nous, nous allons le posséder. C'est à nous et on va résister. Et ensuite, il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Il fut sur Jephté, verset 29. Et on peut être étonné qu'il y ait cette grande victoire par Jephté. Et l'instant d'après Jephté, il fait une chose qui nous semble totalement stupide. Et très grave, au verset 30, il fait un vœu. Si je gagne la bataille, la première personne qui sort de la ville vers moi, eh bien, je vais l'offrir en holocauste. Et c'est sa propre fille unique qui est la première à célébrer son père revenant de la victoire. Et elle dit, ma fille, désolé, j'ai dit n'importe quoi. Maintenant, il faut que je te tue et que je te fasse brûler en l'honneur de Dieu, qui n'avait pas demandé du tout que ça se fasse. Et ça nous parle aussi de choses que nous, on croit, parce qu'il y a l'onction, parce qu'il y a un exaucement, parce qu'il y a ceci, cela, tout est bien dans la vie des gens. Non. C'est pas parce qu'il y a la puissance de Dieu qui agit pour certaines personnes qu'ils ne doivent pas travailler à tout ce que nous avons dit. S'occuper de chasser les ennemis dans notre vie, mener une vie consacrée et finalement avoir suffisamment de bon sens pour faire la différence entre ce que la parole de Dieu dit et ce qui étaient les coutumes et les usages autour d'eux. Parce qu'il n'a pas inventé ce truc-là. C'est ce qui se faisait. Les Baals et les Astartés, leur religion, englobaient des sacrifices humains et en particulier des enfants qui étaient jetés au feu. Donc c'était quelque chose qui est le résultat de ces ennemis qui n'ont pas été chassés au départ, où Dieu avait dit que ça serait un piège. Donc soyons attentifs à ça. Il y avait une influence. Mais en même temps, encore une fois, je ne sais pas si c'est une qualité ou non, mais il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas le révoquer. Je ne peux pas revenir en arrière. Ça se discute, hein. On pourrait dire, oh, je dis n'importe quoi, là, j'ai quand même pas tué ma propre fille. Mais lui, il dit, non, ce que j'ai dit devant Dieu, je ne peux pas le révoquer. Donc, prenez-en le meilleur côté, hein, et oubliez l'autre aspect. Et d'ailleurs, c'est ma conclusion, et je vais le lire dans 1 Thessaloniciens 5. Surtout dans la lecture de l'Ancien Testament, où nous avons vu qu'il y a des choses, des fois, un petit peu bizarres. Des fois, certains comportements des anciens de la parole de Dieu n'étaient pas moraux. Un homme marié comme Galade, il n'était pas censé avoir un enfant avec une prostituée en même temps. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Pourtant, ces choses sont dans la Bible. Et donc, la parole de Dieu nous dit, non pas de copier tout ce que les gens ont fait dans la Bible, mais il nous est dit, ça on va le lire ensemble, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et maintenant, une promesse pour chacun d'entre nous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.